Maintenant, docteur Nunavik, des fils projet. Et puis, je vais surtout vous parler du Nunavik parce que c'est l'endroit où je travaille. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une introduction et une mise en contexte. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la Convention de la baie James et du Nord québécois, la Cour itinérante et des services de justice au Nunavik, des projets passés, présents et futurs en matière de justice. Et ensuite, je vais faire ma conclusion. Donc, au recensement de 2006, il y a 1 172 000 personnes, 190, qui se sont identifiées comme autochtones. Donc, Indiens d'Amérique du Nord, Métis ou Inuit. Il y a plus de 50 différentes langues autochtones parlées au pays. La plupart des langues autochtones sont malheureusement en voie d'extinction. Il y a 3 langues qui ne sont pas en voie d'extinction selon les chercheurs. C'est le cri, l'inuktitut, donc la langue parlée par les Inuits, et l'Ojibwe. Je vais vous parler plus spécifiquement du Québec parce que moi, mon expérience de travail, en fait, c'est vraiment Nunavik qui se situe dans le Québec, à ne pas confondre avec le Nunavut. Le Nunavut, c'est un territoire et le Nunavik, c'est une partie du Québec. En fait, c'est la partie située au nord du 55e parallèle. Il y a 11 nations autochtones qui vivent au Québec. Il y a les Abénaki, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Hurons-Wendat, les Malécites, les Mi'kmaq, les Mohawks, les Innus, les Naskapi et les Inuits. Donc, voici, c'est une carte du Québec. Et sur cette carte-là, on retrouve là, les lieux habités par les différentes nations autochtones du Québec. Donc, le Nunavik, c'est vraiment la partie située plus au nord, donc au nord du 55e parallèle, à peu près ici. Puis, il n'y a pas de route entre les différents villages, et il n'y a pas de route non plus qui relie le nord avec le sud de la province. Le seul moyen de se rendre dans les villages nordiques, c'est par avion. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement des Inuits. Une des particularités, c'est que les Inuits n'ont jamais été soumis à la loi sur les Indiens. Les Inuits sont plus de 10 000, et puis il y a quelques centaines d'autres personnes vivent dans 14 villages qu'on appelle des villages nordiques et non des réserves. Les villages nordiques sont situés soit dans la baie d'Hudson, qu'on voyait sur la carte, le détroit d'Hudson et la baie d'Ungava. La région du Québec s'appelle le Nunavik. Le Nunavik, ça veut dire endroit où vivre. La langue maternelle des Inuits du Nunavik est l'inuktitut. La langue est encore parlée par plus de 90% des membres de la nation. Et puis, c'est les caractères syllabiques que vous voyez à droite, puis je vous ai amené aussi des petits épignons, qui sont utilisés pour son écriture. Le syllabique, ça a été introduit par un missionnaire dans les années 1800. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'écrit, ensuite, ont commencé à utiliser aussi le syllabique. Et les Inuits du Nunavut aussi ont commencé à utiliser le syllabique par la suite. Mais c'est vraiment les Inuits du Nunavik qui ont commencé à l'utiliser en premier. Puis, comme vous allez voir à l'envers du dépliant, selon des études qui ont été effectuées par le gouvernement fédéral, on attribue à l'écriture syllabique, en fait, c'est une des raisons pourquoi l'inuktitut a signé sur le vécu. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez m'interrompre à tout moment s'il y a des gens qui ont des questions.
Un syllabique, c'est pas un alphabet avec des valeurs. C'est fondé sur des syllabes, donc. Ah oui, ça fait A, c'est pas comme la lettre A, mais c'est comme si elle avait
une fois. Oui, c'est ça. Exactement. C'est des syllabes.
OK.
Comme I. Ben, dans le fond, ça,
c'est
l'exemple. Oui, I, pie.
Ah, haut, c'est des voyelles, puis à gauche, c'est des consonnes.
Oui.
Puis c'est toujours des combinaisons.
Oui, puis c'est. En fait, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer, mais ça. Tout dépendant de la phonétique, le diagramme change de position. Donc, ce n'est pas vraiment possible de parler des Inuits sans parler de la convention d'Abbé James et du Nord québécois. Je vois qu'il y a des juristes québécois dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui... moi, je n'étais pas là en 1975, mais est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent un peu plus du contexte de la signature de la convention d'Abbé James? Sans lire au tableau.
Première mondiale, je crois.
Oui, exactement.
Alors, c'est quelque chose de vraiment avant-gardiste. Maintenant, on a reconnu les droits des autochtones, ce qui n'avait jamais été le cas dans le pays à ce niveau-là.
Dans quel contexte est-ce que ça a été fait?
Ben, c'est la construction de la région, c'est le barrage de la région. C'est les territoires.
Exactement. Autochtones. Donc, le gouvernement du Québec comme le plan Nord, avait décidé de commencer à développer le potentiel hydroélectrique du Nord du Québec, mais sans consulter les Autochtones. Donc, les Autochtones ont fait une injonction, parce que même les travaux étaient commencés, puis ils ont fait une injonction pour que les travaux cessent. Et puis, la manière que s'est résolu le conflit, en fait, c'est par la signature de la Convention de la Bay James, en 1975. Les signataires de la Convention de la Bay James, il y a le Grand Conseil des Cris du Québec, parce que les Cris sont aussi situés dans ce territoire-là. Il y a l'Association des Inuits du Nouveau-Québec, le gouvernement du Québec et du Canada, la Société de développement de la Bay James, la Société d'énergie d'Abbé James et Hydro-Québec. Ce que ça a eu comme effet, la signature de la Convention d'Abbé James, ça a été la création de plusieurs entités administratives, dont l'administration régionale catholique, la commission scolaire catholique et la régie régionale de la santé et des services sociaux. L'administration régionale catholique, c'est une organisation qui s'occupe des 14 villages nordiques. Ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve aussi du Québec, les MRC. C'est à peu près les mêmes pouvoirs. La commission scolaire catholique, ce qui est intéressant, c'est que l'éducation au niveau primaire ou secondaire se fait en une institut. Et en première année primaire, deuxième année primaire, troisième année primaire, c'est seulement en une institut. La Régie régionale de la santé, elle se ressemble plus à ce qui existe vraiment là, ici au sud. Puis, s'il y a des gens qui ont entendu parler du projet de gouvernement autonome du Nunavik, qui malheureusement, la population du Nunavik a voté contre, la première étape, c'était la fusion de l'administration générale catholique, de la commission scolaire et de la Régie de la santé, qui aurait fait, en fait, comme un mini-gouvernement du Québec, s'il vous plaît. Aussi, ce que ça a entraîné, la convention de la Bay James, c'est la création de la Société McKivick. La Société McKivick, c'est l'endroit où je travaille présentement. Avant, je travaillais pour l'administration de Jean Catifique. Et puis, le but de la Société McKivick, c'est de protéger les droits des Inuits en vertu de la convention de la Bay James, puis aussi de gérer les indemnités versées en vertu de la Convention et promouvoir le développement politique, social et économique des Inuits. Donc, nous sommes comme les gardiens de la Convention de la Bay James. Le chapitre qui nous intéresse le plus pour la présentation d'aujourd'hui, c'est le chapitre 20 sur l'administration de la justice. Est-ce qu'il y a des lecteurs volontaires? Involontaires? pour chaque article. Oui, allez-y, monsieur.
Un sténographe officiel apte à prendre la sténographie en français et en anglais. Un avocat qualifié à la fin du tribunal de
sténographie. Tu veux?
Suivant. Oui.
Le ministre de la Justice du Québec doit veiller à ce que, sur demande de toute partie voulue, les jugements motivés n'ont pas été rendus oralement et séance tenante, mais par écrit, par des cours, juges ou tribunaux, organismes et commissions, soient traduits de droit en multiples à titre de renseignement seulement et sans fin. Le ministère de la Justice du Québec, après consultation préalable, avec l'administration régionale, doit instituer au besoin des programmes visant à donner aux Inuits la formation nécessaire pour remplir les fonctions de greffier et de greffier adjoint du tribunal itinérant, de shérif adjoint, de sténographe et d'interprète. Des amendements seront adoptés de façon à permettre aux Inuits, dans les cas où le défendeur ou l'accusé est un Inuit, d'agir à titre de juré conformément aux lois et règlements applicables, même s'il ne parle ni le français ni l'anglais couramment.
En passant, il y a beaucoup d'aînés encore au Nunavik qui ne parlent ni l'anglais ni le français, seulement les Nunavik. C'est intéressant, en fait, avant d'aller travailler là, moi, je c'est quelque chose que je ne savais pas, et puis on est dans sa propre province, puis on rencontre des gens qui parlent une autre langue, et qui ne comprennent ni le français ni l'anglais.
C'est peut-être parce qu'on vit dans leur province.
Oui.
C'est peut-être parce qu'on vit dans leur province.
Je vais vous parler plus tard un peu des projets. De l'application de la Convention de la Baie James, en fait, comment le gouvernement du Québec et du Canada applique la Convention de la Baie James. Quelque chose d'autre qui a été créé par le chapitre 20 de la Convention de la Baie James, c'est la cour itinérante. Il y a une raison pourquoi j'ai mis la photo d'un avion. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la cour itinérante? Oui, monsieur. Donc, dans le nord du Québec, en fait, il y a trois villages, sur les 14 où il y a un palais de justice. Il y a Coudjouac, Ovinitouk et Coudjouac-Lapé. Dans les autres villages, la cour va siéger soit dans les écoles ou dans les centres communautaires. À Coudjouac, il y a des services permanents. C'est le seul village où il y a des services permanents. Par service permanent, je veux dire un avocat de la couronne, un avocat de l'aide juridique et un greffe. Dans les autres villages, il n'y a pas de greffe. Le Nunavik dépend du district judiciaire de l'Abitibi. Donc, dans les faits, la cour itinérante, le juge, les détenus, les prévenus, les avocats, les interprètes, quoique les interprètes sont situés déjà au Nunavik, partent en avion d'Amos ou de Val-d'Or et puis vont sur le territoire du Nunavik. Ils vont passer une semaine complète dans les grands centres, puis sinon ils vont aller juste une journée dans les villages. Malheureusement, puisque, premièrement, tout le personnel de la cour itinérante est soit anglophone ou francophone, il n'y a malheureusement pas d'avocat inuit encore, ni de juge inuit. Il n'y a pas d'avocat ni de juge qui parle inuit non plus. Les Inuits ont vraiment beaucoup de difficultés à s'identifier à la justice. Au système judiciaire, ce qui est un peu normal aussi, là. Ce qui a valu le nom à la cour de Flying Circus. Mais imaginez-vous qu'il y a des gens gens arrivent dans votre village, que les hommes portent des robes et parlent dans un langage que vous ne comprenez pas. Ils repartent souvent avec votre fils ou votre mari. Les services de justice ne sont pas très appréciés.
Oui, je m'excuse pour la question, parce que je ne connais rien. C'est bien la loi de. C'est la loi québécoise qui s'applique.
Oui.
Ah, merci.
Oui, le Code civil du Québec et le Code criminel
fédéral.
Exactement.
Juste une précision. Oui. Ce n'est que pour le volet criminel et pénal, parce que ce n'est pas pour la justice civile.
Non, mais il pourrait faire. En fait, ça, c'est un autre triste fait. Il n'y a pas de demande en civil encore. Par contre, il pourrait faire des petites créances et puis ils peuvent faire des comptes civils aussi, mais il n'y a pas de demande. Mais il n'y a pas de demande parce que les gens ne sont pas informés de leur droit.
J'imagine
qu'il y aura
de la famille
sur l'exemple de la jeunesse
ou quelque chose.
Oui, aussi. Okay. Oui. Ils font droit de la jeunesse, jeunes contrevenants, protection de la jeunesse, pénal, droit municipal pénal, droit criminel.
Est-ce que les aspects de la justice autochtone comme une salle de guérison peuvent être intégrés?
Oui, je vais vous en parler plus tard. Oui. Donc, vraiment dans la structure de la cour itinérante, c'est ça, il y a des interprètes. Il y a deux interprètes qui voyagent avec la cour. C'est très difficile de trouver des interprètes au Nunavik. Premièrement, à cause des voyages, puisque la cour elle voyage vraiment beaucoup, il faut chercher des gens qui aiment voyager, qui aiment le milieu juridique, qui aiment le langage juridique. Puis aussi, les gens sont souvent en conflit d'intérêts. C'est quand même juste une population de 10 000 habitants. Donc, souvent, l'interprète va faire face à des membres de sa famille. Il n'y a pas de formation non plus. C'est ça dont je discutais plutôt avec quelqu'un. Il y a très peu de gradués présentement postsecondaires. Présentement, il y a 3 élèves, je pense, en dernière année de cégep. Il y a à peu près 1 gradué universitaire par année. Donc, il n'y a pas vraiment d'interprètes qui ont suivi une formation universitaire. Il n'y en a pas, en fait. Donc, c'est des gens qui vont faire l'interprétation parce que ça les intéresse. Puis, il n'y en a pas beaucoup que ça intéresse.
Et moi, ça doit être une difficulté presque insurmontable pour ces interprètes-là parce qu'il y a aussi tout le système, parce que vous dites qu'on est prêt à les parler, parle des aspects de la justice autochtone, si on veut qu'on intègre la justice des gens. Mais s'ils n'ont pas la formation, en plus, là, on doit avoir des concepts qui sont eux-mêmes étrangers aux personnes. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. Je ne sais pas comment ils font parce que c'est quand même. Le concept de peut-être même n'existe pas dans la langue.
Oui, je vais vous parler plus tard d'un projet. En fait, je vais faire circuler pendant que je parle d'un lexique. C'est un lexique inuit qui est développé justement par les Inuits qui travaillent à la cour et par le ministère de la Justice du Québec et par la société culturelle Avatar. C'est un des moyens pour surmonter certaines difficultés. Les autres intervenants de la cour et les agents d'insertion, ce qui a été fait aussi pour surmonter les difficultés reliées à la différence de langue, c'est du jumelage d'employés. Donc, il y a différents programmes. Il y a le programme d'agents d'insertion communautaire, c'est des agents de probation inuits qui sont jumelés avec les agents de probation du ministère de la Sécurité publique. Donc, lorsqu'ils rencontrent des clients qui parlent seulement les petits toutes, même lorsqu'ils rencontrent les clients pour expliquer les conditions de leur probation, bien, l'agent de réinsertion communautaire va expliquer les conditions en inoptis toutes. Il va faire un suivi des conditions avec la personne à chaque mois en inoptis toutes. Nous avons aussi un centre d'aide aux victimes de la criminelle, un CAVAC. je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu les services du CAVAC ici au Sud. C'est un organisme qui existe ici au Sud. C'est un centre d'aide aux victimes dont ils vont accompagner les victimes et leurs familles et les témoins pendant la procédure judiciaire. Ils vont aussi aider les victimes à remplir les formulaires d'indemnité de l'IVAC. Sakumiyin, c'est le nom de notre CAVAC. Sakumiyin, ça veut dire des gens qui n'est pas en Inuktitut. Et puis la raison pourquoi ça ne s'appelle pas un CAVAC, c'est parce que CAVAC en Inuktitut, ça veut dire dépression. Un autre projet, c'est un projet dont je m'occupe avec une employée inuit. Donc, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est les comités de justice. Il y a un article dans le code criminel qui permet au procureur de la Couronne, pour certains crimes, de prendre le dossier et de le référer à un comité de justice. Puis le comité de justice va rencontrer le contrevenant et la victime afin de faire un cercle et puis de régler le conflit. Les comités de justice peuvent aussi être consultés pour faire des recommandations sur sentence lorsque le crime est plus grave. Donc le juge peut, en fait la personne peut passer à travers là, le processus normal du code criminel, mais il peut avoir l'intervention du comité de justice pour la recommandation. Puis les comités de justice sont formés d'aînés et de membres influents de la communauté. Il y a 14 communautés au Nunavik, puis il y a présentement 9 comités de justice en exercice. Dernièrement, un autre projet, c'est les services parajudiciaires autochtones du Québec. Malheureusement, il n'y en a pas présentement au Nunavik, mais c'est des gens qui vont être présents à la cour, surtout pour les contrevenants, pour expliquer le processus judiciaire et aussi, lorsque la personne, le contrevenant rencontre son avocat, dans le fond, ils vont être là pour faire de la traduction. Les services qui existent présentement au Nunavik, à part les services parajudiciaires autochtones du Québec. Il y a un budget alloué, mais malheureusement, ils ne sont pas capables de combler les postes.
Pardon, qu'est-ce qui arrive avec les recommandations
et les justices? Est-ce qu'elles sont suivies ou est-ce qu'on n'a pas de pouvoir décisionnel? Qu'est-ce qui arrive? Ça dépend pour quel type de crime. Pour certains types de crimes, oui, on a un pouvoir décisionnel. Puis sinon, pour les recommandations sur sentence, c'est certain que le juge n'est pas obligé de suivre la recommandation. Mais à date, lorsqu'il y a eu des recommandations de fait, ils ont été suivies. Mais souvent, ça va être dans les recommandations, ça va être de consulter pendant leur probation, d'aller rencontrer le comité de justice une fois par mois ou d'aller faire, ils organisent des activités traditionnelles aussi, donc aller avec le comité de justice, à la chasse ou à la pêche, renouer un peu avec le mode de vie traditionnel. C'est une justice qui est plus adaptée aussi, donc c'est intéressant comme...
Est-ce qu'elle fonctionne?
Est-ce que ça fonctionne?
Est-ce que ça donne des résultats concluants, positifs?
En fait, le taux de criminalité est vraiment en hausse au Nunavik présentement, fait que c'est difficile de dire que ça a des résultats concrets. Moi, je pense que ça aide certaines personnes. Par contre, c'est difficilement quantifiable en statistiques, etc.
Est-ce qu'on peut même aller dire que c'est un peu comme la justice des Blancs, ça fonctionne dans X corps, et donc la justice autochtone fonctionne dans X corps, et finalement, si on peut occuper au moins tout le monde, on est là pour trouver une bonne unité.
Mais en fait, la justice, elle n'est pas là pour régler les problèmes sociaux. Puis lorsqu'on est dans les communautés, que les autres problèmes sociaux, quand même qu'on est meilleur système de justice, ça ne réglera pas les problèmes sociaux non plus. Les comités de justice, c'est certain que leur mission, comparativement à un système de justice traditionnel, c'est d'essayer de trouver pourquoi le crime a été commis. et non pas de punir le crime comme tel, comme le fait le système traditionnel, mais plutôt de trouver les causes du conflit. Pourquoi est-ce que la personne commet des crimes? Parce que c'est comme ça que la personne va arrêter de commettre des crimes. C'est pas en allant... excusez-moi, mais je crois pas vraiment à la prison et à la détention. Tout dépendant des crimes, bien sûr, mais... pour les autochtones, ça ne fonctionne pas très bien. Prochaine partie de ma présentation, c'est sur les projets passé, présent et futur. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est un projet avec Éducalois. Et nous avons la chance d'avoir des gens d'Éducalois dans la salle. Donc, je vais laisser Caroline Ouellet faire l'introduction de ce qui est Éducalois. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller sur leur site Internet pour vous montrer le projet qu'on a fait avec eux.
Je vais m'avancer à l'avant pour vous voir. Je prendrai juste deux petites minutes de votre temps. Pour ceux qui ne connaissent pas Éducalois, on est un organisme à but non lucratif. On œuvre depuis 10 ans à informer les Québécois et Québécoises de leurs droits et obligations, et ça dans un langage clair et accessible. Donc, on est une équipe d'à peu près 17-18 avocats et notaires, et puis notre travail est de vraiment donner aux citoyens les éléments de base du droit pour qu'ils puissent reconnaître dans leur quotidien des situations qui ont une teneur juridique. Donc, qu'ils puissent identifier leurs droits pour pouvoir les revendiquer par la suite et aller consulter les professionnels associés. Alors, on travaille beaucoup avec Anne-Marie, la société Maquivique, dans un mariage de communication et de droit pour adapter justement les principaux principes de droit à la clientèle inuit. C'est ça. Moi, je suis notaire de formation et je trouve que l'Éducalois est un bon mariage entre les communications et le droit. Donc, c'est le regroupement de mes deux formations et aujourd'hui, j'ai constaté que ce mariage-là entre la langue, les communications et le droit est nécessaire pour bien communiquer, mais aussi pour se faire comprendre. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille depuis 10 ans.
Donc, je vais vous présenter un peu le projet. Ça fait une minute, je vous dis. Et puis, ça avait été présent en collaboration avec le ministère de la Justice du Québec. Et puis, les minutes juridiques, elles sont disponibles, comme vous voyez, sur Internet. Mais aussi, les enregistrements audio des minutes, parce que je vais vous faire écouter un enregistrement audio après, ont été diffusés à la radio communautaire sur le territoire du Nunavik. Les Inuits, c'est un peuple de tradition orale. Donc, ils écoutent, c'est vraiment important pour eux, la radio communautaire. Puis, c'est la meilleure façon de rejoindre les gens aussi sur le territoire. On va vous faire écouter une capsule. Ben, je ne pouvais pas tout écouter parce que je ne pense pas que nous allons comprendre de toute façon, malheureusement. Juste pour vous montrer que c'est ça. La
et je crois beaucoup que nous avons un rassuré que ma fédérée pourrait décider de le premier de prendre le vidéo à côté de la dernière. D'un quoi, de la garde, à main et une première, puis se rappeler une dernière, puis une autre ligne, à main de prendre le vidéo.
Donc, ça
a été fait.
Ça, c'est en abstract, mais il y en a aussi pour. On en regarde dans la capsule autochtone, il y a différentes langues aussi. Là. Les mots, le noir, le cri, la gorgée, etc. Et c'est très intéressant parce que c'est de l'information qui est accessible dans le langage. Prochain projet dont je vais vous parler, c'est en fait le lexique qui circule. C'est un lexique de terminologie juridique, mais vraiment axé plus droit criminel. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qui ont été faites en droit civil encore. Ce lexique-là a été fait en collaboration avec l'Institut culturel à Batac. L'Institut culturel Avatar, ça a été créé en 1980. Son but, c'est vraiment protéger, promouvoir la langue et la culture des Inuits afin de perpétuer l'Inuit et la culture Inuit pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Les ateliers sont organisés par l'Institut, le ministère de la Justice. Ça vise à développer et améliorer la terminologie juridique et à récupérer des mots anciens par le biais de discussions entre un groupe de personnes ressources, donc aînés, intervenants du milieu judiciaire et un groupe de traducteurs et interprètes. Concrètement, c'est des semaines qui sont organisées. Il va y avoir des aînés, les intervenants du CAVAC, les agents de réinsertion communautaire. Il va y avoir une personne du ministère de la Justice qui va expliquer les termes en anglais, puis les Inuits vont avoir des discussions entre eux pour trouver quel serait le meilleur mot, dans le fond, pour traduire le terme. Puis c'est revisé à chaque année, hein. Des fois, vous allez voir, vous allez regarder le lexique, vous allez dire, voyons, tu sais, même, on n'est pas certain du vocabulaire qui est utilisé. J'ai une anecdote à ce sujet-là. À un moment donné, il y avait un ancien à côté du bureau du procureur de la Couronne à Coudjouac. Puis, il s'est posé la question, il a demandé à un Inuit qui a dit, qu'est-ce que ça veut dire, m'enseigne à côté de mon bureau? Il dit, ça veut dire celui qui met les gens en prison. Parce que pour eux, c'était ça le travail de la Couronne de la Couronne, c'était de mettre les gens en prison. Fait que c'est intéressant aussi comme travail de revoir le lexique et d'être certain justement qu'il n'y a pas des traductions qui ont été faites, mais avec une idée erronée.
Oui, vous avez parlé du travail anglais qui est institué, mais est-ce qu'il y a une version française du lexique?
Non.
Non. Pas pour français?
Non, pas pour français les Inuits, pour des raisons historiques. Et disons que le gouvernement du Québec s'est intéressé très tardivement aux Inuits. Donc, c'est une des raisons pourquoi ils ne parlent pas français. Présentement, par exemple, il y a beaucoup... les jeunes ont le choix d'apprendre soit l'anglais ou le français comme langue seconde. Puis, il y a de plus en plus de jeunes qui vont apprendre le français. Par contre, c'est certain que les parents... il y a beaucoup d'Inuits qui sont allés dans les écoles résidentielles. C'est des écoles anglophones. Donc, les parents parlent anglais, fait qu'ils ne vont pas souvent encourager le jeune à apprendre le français ou le jeune ne peut pas voir ça comme pratique d'apprendre le français. Mais de plus en plus, il y a des Inuits qui parlent le français, qui le comprennent, mais c'est encore un milieu plus anglophone. Ben, c'est Inuit, je veux dire, c'est vraiment... les gens parlent Inuktitut, là, on va à Coudjouac, dans n'importe quel village, les gens autour, vous allez entendre Inuktitut, vous n'entendrez pas anglais ou français, là. À part Coudjouac, je voudrais que vous allez entendre parler plus anglais, mais sinon, c'est pas mal en Inuktitut. Dans le fond, je ne sais pas si vous avez une...
Ben moi, je voulais ajouter un commentaire. Ouais. C'est vrai, sauf pour Kouronito, qui historiquement a été une ville qui d'abord, les liens qu'on avait avec cette ville-là. Il y a eu des ressources qui ont été mises, puis moi, quand j'ai quitté en 1998, on avait un taux de sélection d'école française versus école anglaise de 60-40, ce qui est exactement le chiffre inversé des autres villages. Et même au niveau des adultes, la intelligentsia inuit était davantage francophone qu'anglophone, mais avec toujours des connaissances. Donc c'était un village qui était français, enfin, un petit peu de français, anglais dans l'ordre d'importance.
Je parlais un petit peu plus loin, je suis un interprète pour trois nations Inuits dans le sud du Québec et on refuse de leur parler en français. Et ils sont francophones, ils ont la même chicane francophone-anglophone parmi les autochtones que les francophones et les anglophones des langues du Québec. C'est la même dynamique là. Pourquoi vous ne parlez pas en français? Et ça, c'est le ministère. Les années 20e et du Grand Nord qui causent cette situation.
Qui l'a causé dans le passé.
C'est pour ça que je suis arrêté à part. Il y a plus de gens en français qui sont chez eux.
Les derniers projets dont je voulais vous parler, c'est des projets qui ont été développés avec différents partenaires, soit l'administration de l'Angleterre, le bureau d'aide aux victimes d'actes criminels, le BABAC qui chapeaute les CABAC au Québec. On a aussi un corps de police régionale au Nunavik qui s'appelle le corps de police régionale catholique, donc police autochtone, et Uskalois, ministère de la Justice du Québec, ministère de la Sécurité publique du Québec aussi. J'ai amené deux affiches qui ont été produites dans les dernières années, dont une sur les services du réseau de la justice qui est en inuktitut anglais-français. Et puis, l'autre qui est le processus criminel pour les processus criminels pour adultes, qui a été traduit d'une affiche. Elle existe en français et en anglais, mais celle-là, elle est en inuktitut seulement. Puis, on développe aussi beaucoup, on essaie de traduire beaucoup de dépliants, surtout les dépliants pour les victimes et les contrevenants. Ou les formulaires de conditions pour quand les gens ont des conditions à respecter pendant leur probation, pour que les gens puissent comprendre l'information. Donc, ma conclusion, c'est l'article 13 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Déclaration à laquelle le Canada a tardé à adhérer, mais finalement adhéré. C'est surtout le deuxième paragraphe, en fait, qui est intéressant. Je vous dirais que les Inuits sont quand même, ils ont quand même une protection qui leur est accordée en vertu de la Convention de la baie James, mais il y a beaucoup de peuples autochtones au Canada pour lesquels ce n'est pas le cas. Et puis, il va y avoir un comité va avoir pour fonction de voir comment le gouvernement fédéral va justement faire pour mettre en pratique la Déclaration des Nations Unies. Et puis, je crois que ça va être intéressant de suivre comment va être appliqué là, le deuxième alinéa d'article 13, qui parle vraiment d'un accès pour d'un accès à la justice en langue autochtone. Donc, si vous avez des questions, même des suggestions sur des projets, si vous avez des idées de, vous connaissez des projets qui se font ailleurs avec d'autres communautés autochtones, ou ça m'intéresse beaucoup d'en apprendre plus aussi.
Moi, j'aurais besoin d'une précision.
Une décision.
Précision. Les autochtones d'abord sont nord-américains. Ils ne sont ni canadiens, ni américains, ni anglais, ni français, ni blancs. Ils ne sont rien de ça. Selon le, si je comprends bien tous les traités, il n'y a rien qui dit dans le traité qu'ils sont autres que ce qu'ils étaient avant qu'on arrive. Okay. A. B. Ils sont régis par le gouvernement fédéral avec le ministère donc, du Grand Nord dans ce cas-ci. Ils ont droit à leur propre façon de vivre, à leur autonomie financière, ils peuvent aller à la chasse, ils peuvent aller comme ils veulent, ils ne sont pas assujettis à aucune de ces lois-là. D'ailleurs, la loi Marshall a confirmé cette situation-là il y a quelques années. Quand vous parlez de l'éducation, ça devient quelque chose de provincial. Vous parlez de langue qui devient provinciale, qui est régie, si on parle des écoles résidentielles, par la religion qui est ni fédérale ni provinciale, dans un système qui avait été promu par le fédéral. Quand on n'est pas juriste, comment on fait pour comprendre, ou quand on est autochtone, comment est-ce qu'on fait pour comprendre cette boulie? Je pense que je l'ai dit, là, mais j'y comprends rien. Comment est-ce qu'on fait pour laisser faire les interprètes et les traducteurs? Je pense que d'emblée, on ne sait même plus ce qu'on fait. C'est tellement. Allô, moi, je peux dans le même pour rien. Comment est-ce que vous réagissez ces gens-là?
Ben, je pense que c'est un problème aussi, c'est que il y a tellement eu des interventions de la part du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral que de fait que même par ce qu'on a imposé comme structure, disons, minérée, puis ce qu'on impose comme système de justice aussi, puis comme loi, ben, je pense que ça fait tellement longtemps que les gens sont assujettis à ça, qu'ils ont appris à vivre avec ces structures-là. Je ne dis pas que ça fonctionne, mais de là à retourner complètement à ce qui était fait avant, je pense que les gens auraient de la difficulté aussi, là, parce qu'ils n'ont plus ces connaissances-là. Là.
OK, ben alors, poussons l'argument un peu plus loin. Si jamais un jour, et je pense que ça s'en vient, certains de ces gens-là deviennent avocats, deviennent plus éduqués, et ils vont les détecter, c'est pour ça qu'ils ne sont pas obligés d'être jugés à quoi que ce soit. Ils vont pas se lever de bord, dire, mais on est là, n'est-ce pas? Et ils seraient toujours juridiquement appuyés par les Nations Unies.
Oui,
parce que pas de traité qui dit qu'ils sont obligés de le suivre.
Et en droit
à
l'autodétermination.
Voilà. Alors, est-ce qu'on.
Mais regardez ce qui se passe au Nunavut.
Il y aura pour ça aussi.
Ah, regardez ce qui se passe au Nunavut aussi. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est un gouvernement autonome, mais ils ont vraiment repris les structures externes aussi. Là, fait que.
Ben, pour
c'est une question de. De connaissance de ce qui se faisait dans le passé, puis d'évolution, puis de, les systèmes ont tellement été imposés, est-ce qu'on peut retourner en arrière, mais voilà un beau sujet de thèse de doctorat.
En 16 sujets. Ben, moi, je le dis par expérience, parce que j'ai l'impression que ces gens-là, je t'écoute parler, et là, j'entends la langue, je parle, mais toutes les connectées, les personnes de ressources que je connais, les milieux autochtones, on a un discours tout à fait différent, pas beaucoup plus comme moi, je parle présentement, là je fais l'avocat du gouvernement, parce que je pense qu'ils le savent tous jusqu'à un certain point qu'ils n'ont aucune obligation à ça. Ils le font par, s'ils veulent survivre, s'ils veulent avoir leur chèque, là ils se conforment au système, mais ils savent très bien qu'ils sont sur la ligne, bien souvent ils retournent sans même dire, ils sont obligés de dire, c'est quand même.
C'est certain, moi, aujourd'hui, ma présentation, c'était vraiment plus par rapport aux Inuits du Nunavik, puis même entre les différents peuples autochtones du Québec, parce que pour le comité de justice, je travaille avec, avec différentes nations, ils ont complètement des mentalités différentes par rapport à ce qui, quelle loi s'applique à eux, puis comment chaque nation a un peu ses caractéristiques, puis.
Là-bas, au fond.
J'aurais une question par rapport à votre pratique avec McKibbitt. Au niveau de la cause, parce que vous parliez des causes, je cherche à savoir qu'est-ce qui a créé le crime, qu'est-ce qui a motivé le crime. Il n'y a pas 10 000 raisons d'en aller, il y en a une essentiellement, puis c'est le problème d'alcool, de drogue, et les violences conjugales qui en découlent souvent de ça. Est-ce que dans la pratique, au niveau de l'éducation, on a des gens d'éducation qui sont là, mais est-ce qu'il y a un volet aussi juridico-social avec des actions précises qui sont en place, qui sont mises en place soit par PRG ou McKibbitt pour venir attaquer ce problème-là, je pense notamment au problème dès le début du secondaire avec le problème de drop-out puis de suicide chez les jeunes et tout ce que ça peut amener comme problèmes sociaux par la suite, ce qui est une allée directe vers le mur pour la majorité d'entre eux.
Ben, nous travaillons présentement sur un projet en collaboration avec une chercheure de l'Université de Montréal qui justement, parce que comme je disais plus tôt, je fais partie d'un groupe de travail sur l'accès à la justice au Nunavik puis sur les services correctionnels aussi. Puis après, certains vont dire que ça aurait pu prendre moins de temps, mais après 2 ans de travaux, notre conclusion, c'est vraiment que le système judiciaire n'est pas là pour répondre aux problèmes sociaux. Ce n'est pas son but. Quand même que les gens ne s'identifient pas au système judiciaire, quand même qu'on change, mais ça ne réglera pas les problèmes sociaux. Donc, on est en train de développer un système qui serait plus adapté avec l'intervention justement des comités de justice et de d'autres intervenants du milieu pour aller identifier les causes du crime. 80% des crimes au Nunavik présentement sont commis lorsque la personne est en état d'ébriété. La plupart des crimes aussi, c'est des crimes administratifs, la personne est en pris de condition parce qu'elle est en état d'ébriété. Donc, on veut trouver un moyen de que ces gens-là, en fait, qui ont des problèmes de dépendance, et non pas des problèmes juridiques. Les Inuits, il y en a des criminels, mais ce ne sont pas des criminels, ce sont des gens qui ont des problèmes d'alcool. Je ne dis pas les Inuits, mais je dis des gens qui fréquentent, qui sont des contrevenants qui reviennent, ce ne sont pas des criminels, c'est des gens qui ont un problème de dépendance. On est en train de développer un système qui va restructurer un peu l'intervention policière, au lieu de judiciariser des gens comme ça, un peu comme ce qui se fait ici à Montréal avec de l'art cornier pour les itinérants, essayer de sortir ces gens-là du système juridique en fait. Parce que présentement, c'est inquiétant parce qu'il y a beaucoup d'adultes au nord, au Nunavik, qui ont un dossier criminel. Ce ne sont pas, comme je vous dis, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas c'est des gens qui ont des problèmes d'alcool.
C'est ça la question, parce que si on se rend compte qu'en lien, ces gens-là, c'est pas des clients du système, c'est juste que ils sont partis à moi, c'est parce qu'il y avait d'alcool illégal sur le bois de la limite, ils sont partis à la route, puis ils ont sorti leurs armes, ils ont commencé à se tirer dessus. C'est pas les gens qui font de façon différente. C'est plus ça au niveau de, je comprends dans la position, mais de mettre en place aussi l'autre côté, c'est-à-dire au lieu de les institutionnaliser dans une prison municipale, puis de les garder là, les amener vers des ressources, que ce soit avec
le système de santé.
Le système de santé
du Nunavik. Oui. Parce que le système de santé a beaucoup. En fait, va être impliqué dans ce projet-là. Puis, puisque ce sont des problèmes qui touchent plus les services sociaux aussi, le système de santé, bien, je pense que c'est important qu'on travaille à ça. Mais oui, il faut aller identifier les raisons du crime. Puis, les raisons du crime au Nunavik, c'est souvent.
Ma question, c'est par rapport à la formation. Est-ce que vous avez dit, ça n'est pas dit, que pas de juriste qui parle de nous, que pas de nous qui a une formation en droit, c'est ça? Est-ce qu'il y a moyen peut-être de former juriste dans la communauté, ou comment on peut approcher la formation de la sécurité? Est-ce qu'il y a des moyens de vous envisager, ou c'est complètement non envisageable?
Juste une petite spécification. Inu, c'est un nom de nation. Un Inu, qu'on dit des Inuits au pluriel ou un Inu. Un Inu, c'est une autre nation. Il y a une école de droit, en fait, je pense qu'il y a déjà l'Université d'Ottawa ici, puis il y a une école de droit au Nunavut qui s'appelle Akitirak, qui était en partenariat avec l'Université d'Ottawa. Puis c'était un bac, je crois, sur 4 ans au lieu de 3 ans. Puis ça visait justement à former des Inuits. Puis il y avait des jeunes du Nunavik. En fait, il y a eu deux jeunes du Nunavik qui ont participé au projet, mais qui n'ont pas. Qui ont participé au. Qui se sont inscrits au bac, en fait, mais qui ne l'ont pas complété. C'est certain que c'est quand même difficile d'intéresser des gens, ben, premièrement, à l'éducation postsecondaire, puis aussi à aller étudier en droit. Puis, c'est pas dit non plus que les gens, ce qui se passe aussi, c'est que les gens, des fois, qui ont un diplôme universitaire, sont pas nécessairement intéressés à aller travailler sur le territoire après. Oui, c'est beaucoup de défis. Puis, présentement, il n'y a pas de projet comme tel, à part avec Tirac, qui recevait l'appui là, de, du Munalik aussi.
Est-ce que c'est possible? Je pensais qu'il y avait plus d'intégration. Il me semble qu'il y a eu dans un journal entre la justice des Blancs et puis la je pense, justice autochtone, on peut dire ça, en tout cas, leur façon de régler les problèmes. Autrement dit, est-ce que c'est possible que, par exemple, quelqu'un soit reconnu coupable d'un criminel ou d'un pas criminel, il y ait une peine qui soit comme. Comment je pourrais dire, adapté, c'est ça, alors, est-ce qu'il y a des enfants comme ça qui sont, ou c'est simplement la justice des gens qui s'applique de A à Z? Comment ça fonctionne?
Bien, tout dépendant, il y a un article dans le code, c'est ce que j'expliquais tantôt, il y a un article dans le code criminel qui permet au procureur de la couronne de prendre un dossier, de donner un comité de justice. Puis dans ce cas-là, ben, il n'y aura pas de dossier criminel.
Ça prend une loi.
Ça prend une loi, ça sort du système. Okay. Puis la personne, elle n'aura pas de dossier criminel non plus. C'est quand même intéressant aussi pour la personne. Puis, il va y avoir un cercle avec le meilleur qui fonctionne, c'est qu'il va y avoir un cercle avec le contrevenant et la victime, la famille de la victime, en toutes les gens qui sont nécessaires pour régler le conflit.
Et comment ça se détermine, ben, j'imagine que tu peux parler, mais comment ça se détermine, on va dans un sens ou dans l'autre, c'est ce que je trouve un peu. À savoir, est-ce qu'on va du côté, on va appliquer le code criminel ou on va plutôt aller du côté de cet organisme-là qui va.
C'est pas le grand acteur qui prend la décision.
C'est pas le grand acteur selon les faits.
Oui, selon les faits, puis c'est selon le type de crime. Aussi les antécédents, si la personne en a déjà utilisé ce processus-là, puis si ça n'a pas fonctionné, etc. Il y a différents critères.
D'emblée, est-ce qu'une tendance à aller vers le système autochtone?
Oui, surtout pour les gens. Ou sinon, ce que les gens vont faire aussi, ils vont aller voir le comité de justice avant d'aller à la cour. Puis il y a des représentations qui peuvent être faites par les avocats ou aux juges, comme contre la personne. Voit déjà le côté de justice pour régler ses problèmes. Dans la sentence, ça pourrait être moins sévère. Puis c'est différent, encore une fois, de nation en nation. Il y en a qui sont vraiment plus développés que d'autres. Je sais que je crois que c'est chez les Mohawks qui ont un underland program. Fait que quand la personne, dans ces conditions, on va avoir ça d'aller comme. Il y a des bush program. Ils vont aller comme une semaine réapprendre les activités traditionnelles et tout. Là. Fait qu'il y a beaucoup de projets comme ça à travers le Québec. Je dirais que le Québec, c'est peut-être une des provinces aussi qui est moins avancée. Mais si vous voulez lire sur le sujet, encore plus britannique, il y a beaucoup de projets comme ça.
Donc, une dernière question. Le temps passe. Et, allez-y.
Dans les nouveaux territoires, donc hors Québec, on parle d'un nouveau des autres, où ils ont maintenant leur propre gouvernement et tout, je présume qu'ils ont leur propre ministère de la justice, c'est tout. Est-ce que ça fonctionne bien? Et est-ce qu'on apprend de ça, le collège?
Ben, je
ne
sais pas. Je ne suis pas prête à me prononcer là-dessus. Par contre, tu sais, à première vue, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait. La structure, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui était là avant aussi. Là. Mais c'est intéressant parce que justement, le Nunavut, ils ont des avocats. J'imagine que ça fait une grosse différence, mais je ne connais pas assez le système.
Bon, ben l'heure est passée très vite. Je dois avouer que moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que vous avez eu un public captivé parce que vous étiez captivante. Et je voudrais remercier aussi le public pour sa participation. Vous voyez que tout le monde a bien participé. Alors, merci beaucoup, Maître Préfontaine, de votre.